Le peuple, vous, moi, ceux qui ont des choses à dire et à redire, ceux qui ont envie de donner leur point de vue sur le monde et sur le futur enviable ou non qu'ils imaginent, peuvent venir parler à notre micro. Nous sommes à Lyon, pour le moment, mais tentez votre chance par mail, il se peut que nous passions près de chez vous. Je vous l'avoue, je suis allé chercher des gens que je connais, voire des amis, parce que ça me semblait plus facile d'évoluer en terrain connu pour les premiers épisodes de cette nouvelle série d'entretiens dans Calreco. Ça n'était donc pas difficile de trouver un cadre de discussion sympathique et enrichissant avec l'invité du jour. Plébéienne, c'est à toi.
Eh ben, moi, je m'appelle Floriane Durin, je suis comédienne et chanteuse. Mon activité principale, elle se situe au théâtre. Je fais un petit peu d'audiovisuel, un peu de voix, mais c'est principalement sur les plateaux de théâtre que je sévis, voilà. Et puis, j'ai monté une compagnie avec deux copains acteurs il y a 6 ans de ça, qui s'appelle la compagnie La Douce, qui m'emmène aussi à d'autres endroits, puisque ça veut dire que je deviens, avec mes copains, porteuse de projets. Et bah, ça fait réfléchir autrement, puisque je ne suis plus simplement interprète, et plus au service du désir de metteur en scène. Mais tout d'un coup, je m'empare de mes propres histoires, et puis je m'en empare collectivement beaucoup, puisque le collectif est une chose qui m'intéresse profondément.
Ok, alors faisons plus ample connaissance avec Floriane, artiste comédienne. On va parler de théâtre, car c'est son endroit de prédilection. Floriane, quel a été ton parcours? Comment envisages-tu ton métier?
Le choix du théâtre, il s'est fait très tôt. Je pourrais même pas te dire exactement à quand il remonte, mais en tout cas, c'est très tôt. C'est très tôt, à l'école primaire, c'est déjà présent. Et puis après, fin de collège, il faut que je m'oriente. Et c'est tracé pour moi. Je ferai une école pour apprendre à être comédienne. Donc, je vais faire un parcours hyper classique, c'est-à-dire que je vais avoir un bac littéraire avec une option théâtre. Je vais charger au maximum le théâtre, donc avoir 7 heures de théâtre par semaine et essayer d'y passer le plus de temps possible. Et puis ensuite, je sors, j'ai un an pendant lequel je vais un peu à la fac en histoire de l'art, mais plus pour écouter des gens qui racontent des trucs chouettes que vraiment pour la fac, parce que je sais que c'est pas là que je veux aller. Et pendant cette année, je prépare les concours. Je passe le concours d'une école qui est montée à ce moment-là à Lyon, qui s'appelle la Seine-sur-Saône, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dans laquelle je vais traverser 3 années avec un groupe pendant laquelle on va avoir des tas d'intervenants et on va apprendre des techniques vocales, techniques corporelles, l'histoire du théâtre, enfin voilà, petit à petit. Et puis après, assez rapidement, à ma sortie de l'école, je vais travailler par des intervenants justement avec lesquels j'avais eu un bon feeling pendant mes années de formation. Et puis, il va y avoir une rencontre importante pour moi qui va faire après 18 années de ma vie de comédienne, qui sera avec un metteur en scène qui a une troupe, metteur en scène qui s'appelle Michel Belletente, et voilà, avec lequel je vais voyager comme en famille. Et c'est vraiment cette notion-là qui va être hyper importante pour moi, et la joie que j'aurai sur le plateau, elle va être beaucoup, beaucoup portée par cette notion de famille, de troupe. Même si, à ce moment-là, je suis pas encore prête à m'émanciper du papa, que le metteur en scène a pour moi encore une place importante et que je m'en remets beaucoup à lui, et que c'est encore très agréable pour moi d'être un objet de désir. Ce qui va changer, hein, tu penses bien que si je te dis ça, c'est pour préparer la suite. Et la suite, c'est il y a quelques années, avec des copains justement qui traversaient la même aventure que moi, on se dit qu'on a envie de raconter nos histoires. On se dit qu'aucun d'entre nous n'a de velléité d'être chef, que ça ne nous intéresse pas du tout et qu'il y a un truc qui nous met même mal à l'aise. Et donc, on se dit peut-être, en fait, ensemble, on pourrait raconter des histoires. Donc, on crée notre collectif qu'on va appeler La Douce. Et ça, c'est aussi un choix et un choix politique. Parce qu'on est persuadé qu'un travail dans la douceur et la bienveillance fait naître des choses chez l'humain, je pense, plus profondes, en tout cas, pour nous, certainement plus joyeuses. Et donc plus génératrice de désir et d'énergie, parce que porter une structure, ça demande beaucoup d'énergie, et que quitte à le faire, autant le faire dans la douceur et la bienveillance, qui n'empêche pas du tout, à notre sens, ni la colère, ni la révolte, ni la verticalité. Il s'agit pas d'être des ravis de la crèche, mais c'est une vraie posture politique, une décision d'entrer dans le monde.
La politique, on y viendra, vous pensez bien. On est sur Calréco, quand même. Je vous laisse avant comprendre la décision de Floriane de quitter le cocon douillet d'une compagnie de théâtre qui a pignon sur rue pour monter la sienne avec ses amis. Était-ce une raison artistique ? Un ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes, ou aussi un constat un peu psychanalytique avec l'idée de prendre de la distance avec ce rapport paternaliste, voire patriarcal, qui lie souvent les actrices, et aussi les acteurs, au metteur en scène.
Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un point de rupture qui arrive, qui fait qu'il y a un clash, tout ça. Les choses ont été bien plus glissantes, et d'ailleurs, de son côté aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport au metteur en scène, petit à petit, quand on prend en main son outil de travail, je crois que c'est comme tout ouvrier face à un patron, en fait. Quand on se rend compte que on est capable de s'émanciper, on est capable d'être une vraie force de proposition, et ben tout d'un coup, avec effectivement en parallèle tout un chemin de vie, des prises de décision, de plein d'endroits d'émancipation, ben tout d'un coup ça devient comme une sorte d'évidence. Alors après, c'est accompagné quand même de clash humain. Parce que en tout cas dans ce rapport-là, ça arrive et lui aussi, je crois, décide de finir cette histoire d'une façon assez violente, ce qui m'appartient pas totalement. Après moi, je crois que j'ai d'autres choses à faire à ce moment-là, donc je vais pas m'attarder dessus. Je mettrai un peu de temps à le digérer. Je sais même pas si aujourd'hui c'est totalement digéré, mais en tout cas c'est un glissement, ça c'est certain. Et c'est que on a mis en place collectivement, parce que finalement avec les copains on a tous vécu une aventure similaire, mais on a mis en place notre outil de travail pour pouvoir, je crois, traverser la rupture avec le père, en fait, ce qui était vraiment notre chemin. Et donc voilà, ce travail de la douce, et ben petit à petit, il se construit et puis il va continuer à se construire et on n'a pas fini d'explorer.
On a dit qu'on y viendrait, on y vient donc, car tout est politique évidemment, et certainement plus que tout le monde, un artiste doit s'engager, et pas seulement pour râler parce qu'il paye trop d'impôts. En tout cas, c'est mon point de vue. Comment fait-on ces choix esthétiques, artistiques et politiques dans une création théâtrale, tiens ?
Alors, l'axe politique, je crois que... Alors, c'est pas du théâtre politique à proprement parler. En revanche, on a un axe éthique et politique. Mais je crois, comme dans tout acte de création, finalement, même si on n'en est pas maître, même si on ne l'a pas conscientisé. Mais pour nous, la valeur du collectif, elle est hyper importante. Elle est très complexe, parce que ça demande, c'est l'art du compromis. Et l'art du compromis, ce n'est pas le non-choix. Hein. Au contraire, c'est pour moi le choix ultime. C'est savoir qu'est-ce qui est profondément important pour soi et qu'est-ce qu'on peut lâcher. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes terrains de on n'a pas tous la même hiérarchie de, dans les choses, dans les idées et tout ça. Et en fait, c'est apprendre que on peut créer quelque chose qui sera la somme des choses importantes pour les uns et les autres, en fait. Et ça va donner une vraie identité. C'est-à-dire qu'un collectif, c'est pas quelque chose de tiède ou quelque chose de flottant parce que du coup, on voit pas trop. Non, au contraire. En fait, un collectif, c'est la réunion de différents individus, mais les collectifs sont pas tous les mêmes. Le collectif de la douce est singulier parce qu'il est composé de nos trois identités et même plus largement, puisqu'on travaille pas que à trois quand on est en création. On a différents collaborateurs artistiques et du coup, on vient chercher aussi chez eux des propositions, des identités qui vont construire. Et il n'y a pas de question de « moi j'ai le final cut ». Parce que chez plein de metteurs en scène, il y a des metteurs en scène qui sont pas des tyrans hein, et qui laissent les équipes artistiques voyager et tout ça, mais qui ont le final cut parce que ça doit, au final, ils tiennent une sorte de barre. Nous, on décide qu'en fait, le bateau va pouvoir se diriger un peu tout seul, en tout cas qu'on va successivement prendre la barre et puis à des moments la lâcher, puis on verra bien aussi avec les éléments qui sont autour de nous où est-ce que ça nous emmène. Et donc ça, c'est pour le côté politique. Le côté esthétique, bah, on est tous les trois des enfants de la pop culture, on est nés dans les années 70, on a grandi dans les années 80, on a bouffé de la télé, voilà, comme c'est pas permis, on est fan de séries, d'art visuel, de musique. On aime la pop culture en général et du coup, on amène ça au cœur de nos créations, que ce soit une pop très colorée ou une pop plus dark. C'est notre entrée en contact avec les œuvres et pour l'instant, mais c'est en train de bouger et ça va changer de plus en plus, on est plutôt sur du répertoire classique qu'on déconstruit, qu'on aime déconstruire, qu'on aime aller questionner, aller bousculer un peu. Et ce répertoire dit classique, on vient le chambouler avec nos références de pop culture. Mais finalement, la pop culture, c'est une déclinaison des grands mythes. Et quand on va chercher dans les mythes fondateurs, bah, on tombe assez rapidement sur nos pieds avec les gros blockbusters, nous, qui nous réjouissent.
Floriane, au sein de La Douce, propose aussi depuis peu une forme qui s'écarte du théâtre classique, du théâtre tout court d'ailleurs, il s'agit d'une conférence gesticulée. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, qu'est-ce qu'une conférence gesticulée? Et puis comment, Floriane, toi, tu l'abordes, cet exercice-là?
Alors, une conférence gesticulée, c'est pas une forme qui est réservée aux acteurs, déjà. C'est important de le dire. C'est un outil d'éducation populaire, un outil d'émancipation. Les conférences gesticulées, elles sont prises en charge par des citoyens et citoyennes qui décident de dénoncer une forme de domination qu'ils ont subie au cours de leur vie. Donc, les sujets sont hyper divers. Ce qui est propre aux conférences gesticulées, c'est la réunion entre un récit de vie qui est au centre. Pourquoi on appelle conférence gesticulée? C'est parce qu'on n'est pas des experts, on est des gesticulants, des gens qui bougeons, qui vivons, qui interagissons. Par contre, on est en capacité d'élaborer une pensée, et plus précisément une pensée politique, puisqu'une conférence gesticulée, c'est toujours un spectacle politique. C'est un spectacle politique de gauche, on pourrait dire d'ultra-gauche. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met sous ce terme d'ultra, mais en tout cas, c'est vraiment une pensée politique de gauche dans laquelle on dénonce les trajets de domination. Donc, on a un récit de vie qui est central, qu'on va venir étoffer avec de la donnée froide, donc de la donnée scientifique, on fait... on va chercher plein de références chez des auteurs, de la littérature, des podcasts, enfin bref, on vient étayer ça avec de la donnée froide, donc quelque chose qui nous met à distance. Et puis après, on tisse, on fait une sorte de maillage avec... alors, c'est pas toujours le cas dans les conférences gesticulées, mais c'est quand même majoritairement ça. Et on amène un troisième fil, qui est une sorte de fil rouge, qui va nous permettre de faire un pas de côté quant à notre sujet. C'est une chose qui peut être un truc qu'on aime bien, une passion, un truc qu'on fait dans nos habitudes, voilà. Moi, par exemple, j'ai choisi les héroïnes de Blockbuster parce que je retombe sur la pop culture, que je les adore, qu'elles sont pour moi depuis très longtemps des... Je sais pas si c'est des modèles, mais en tout cas, j'aime aller regarder et avoir ces combattantes, ces résistantes de ces gros blockbusters. C'est des figures féminines aussi qui changent un peu des princesses Disney et ça me plaît. Donc voilà, on a ce maillage entre ces trois choses-là et le centre qui est le discours politique. Le principe, c'est de permettre à des citoyens et citoyennes de construire un discours politique à partir d'une expérience de vie. Comment est-ce qu'on voit que ce qu'on a traversé, ce qui nous a été imposé, n'est pas simplement notre petite histoire, mais fait partie d'un système plus large qui est un système de domination.
Moi, j'ai vu la conférence gesticulée de Floriane. C'est génial. C'est franchement génial et ça m'a donné envie de m'y coller moi aussi à cet exercice. Alors, j'ai pas vraiment le temps pour l'instant de me former et puis d'écrire une conférence gesticulée, mais je pense que ça fait partie des objectifs à moyen, voire à long terme, que je peux me fixer, car c'est un moyen d'expression incroyable. Et très jubilatoire, il me semble. Et puis en plus, moi j'ai mon sujet, la domination du matérialisme dans ce monde de brut. Et donc, quel est le sujet de la conf de Floriane? Et pourquoi ce sujet?
Alors mon sujet, c'est l'inceste. Et c'est l'inceste comme outil de domination pour le patriarcat, permettant l'entraînement de la masse à toutes les autres formes de domination. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai été victime d'inceste quand j'étais enfant, que c'est une chose avec laquelle j'ai dû me débattre pendant bien des années, que j'ai commencé par 10 années de psychanalyse. Et puis, ça a suivi aussi mon parcours de comédienne, hein. Je te le disais tout à l'heure, être un objet de désir, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on accepte en étant objetisé. Voilà, tout ça c'est mis en place. Et puis, je cherchais en fait comment est-ce que moi, en tant qu'artiste, j'allais transformer cette histoire de vie. Donc ça s'est passé par plein de choses, d'ailleurs ça continue à passer par plein de choses que je crée avec une dessinatrice, une bande dessinée à partir d'un scénario que j'ai écrit. Et puis un jour, je connaissais les conférences gesticulées par le créateur du départ qui s'appelle Franck Lepage, qui lui a fait des conférences sur, notamment sur les politiques culturelles. Donc moi, je l'avais vu en conf et j'avais adoré cette forme, qui change beaucoup de moi ce que je fais habituellement, parce qu'il n'y a pas de texte, hein, on a un plan et on déroule notre pensée. Mais par contre, c'est quand même une forme d'improvisation. Alors, les conférences gesticulées, on les monte collectivement. Et au sein de ma formation, par exemple, moi, j'étais la seule à être actrice. Tous les autres venaient de différents corps de métiers, avec des âges complètement différents. Enfin, on avait vraiment, là, pour le coup, des parcours et des sujets, des thématiques qu'on allait aborder qui étaient très différentes. Pour autant, le principe de la domination reste le même et le côté systémique est toujours bien présent. Donc c'était très troublant d'ailleurs de pouvoir mettre en parallèle le monde de l'emploi et l'inceste. Et pourtant, il y a plein de choses qui se recoupent parce qu'on est dans une société patriarcale, on est dans une société capitaliste et libérale qui est fondée sur du pyramidal. Et donc, ben voilà, en fait, les trajets de domination, ils sont présents partout. Et alors, juste le truc, c'est que moi, je vais vraiment plonger dans la sphère intime, hein, puisque je vais questionner la famille comme groupe social. Et voilà. Et donc, bah, le moment où je me dis peut-être que c'est la bonne forme, c'est que j'entends un podcast sur le sujet qui s'appelle « Ou peut-être une nuit », dans lequel il y a une intervenante qui s'appelle Dorothée Ducy, qui est anthropologue et qui a écrit un ouvrage magnifique, magistral, hyper accessible et d'une intelligence vraiment rare, qui s'appelle « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste ». Et en fait, quand j'entends ce podcast qui dure 6 heures, je suis mais bouleversée. En même temps, il y a une cogite qui vient, parce que j'ai un passé militant. J'essaye de m'engager politiquement. En tout cas, je suis engagée dans le mouvement des intermittents et précaires. J'essaie de réfléchir à la société dans laquelle je m'inscris. Et voilà. Et puis, voilà, j'ai un frère qui est activiste écologiste. Enfin, la politique, elle fait partie de mon quotidien, sans aller dans un parti, sans, voilà. Mais en tout cas, je politise beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je me dis, oh, c'est magnifique, parce qu'en fait, ça réunit tout pour moi. C'est aligné. C'est-à-dire que c'est un moment où je me sens en capacité d'avoir suffisamment de distance par rapport à mon sujet, du point de vue intime, pour pouvoir y aller et pour livrer ce récit de vie. En même temps, ben, j'ai 20 ans de bagage d'actrice qui font que la scène ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, elle est plutôt jubilatoire pour moi. Et puis cette pensée politique, tout d'un coup, de capter qu'en fait tout ça se rejoint sur un terrain qui est peut-être en fait ce que j'avais pas. Je combattais d'autres endroits de domination plus sociaux. Je combattais le MEDEF, je combattais les différents ministres du travail. Mais tout d'un coup. J'ai en ligne de mire le patriarche, en fait, mais que je peux voir à travers toutes ces entités, en fait. Et tout devient assez clair. Et donc, je me dis, OK, bon, en fait, c'est la conf qu'il faut que je fasse. Il se trouve qu'à ce moment-là, on est lancé avec la douce dans un cycle de création autour des figures féminines de résistance. On va plutôt du côté de la mythologie pour aller chercher nos figures, mais on se dit, en fait, c'est quoi? Peut-être c'est pas mal, en fait, comme figure féminine de résistance. Moi, je vais y aller, parce que, en fait, c'est chouette de parler d'Andromaque, d'Antigone, d'Athéna, mais peut-être qu'en fait, je peux prendre ma part là et me redresser et porter ma verticalité en tant que femme face à la cité. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais à travers cette conférence.
Quels sont les points de convergence entre inceste, capitalisme, patriarcat ? On n'a pas tendance à voir l'inceste comme une problématique systémique, et pourtant, c'est ce que Floriane dit dans sa conférence.
Ah bah c'est totalement le cas. Alors, ma conf dure 1h45, et je pense que je pourrais en faire 3 heures. Il n'y aurait pas de problème là-dessus, j'aurais de la matière. Non, c'est évidemment systémique. C'est évidemment systémique. Les chiffres sont là pour le dire. En 2020, il y a une enquête qui est commandée à l'Institut de sondage Ipsos qui va révéler que 10% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Je dis bien déclare, parce que déclarer un inceste, c'est un parcours. Et on sait qu'il y a plein de situations qui ne sont pas dénoncées. Des fois aussi parce que les gens ne conscientisent pas que c'est une situation incestueuse. Aussi parce que plein de gens sont dans ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que l'esprit, face à un traumatisme trop grand, a décidé de couper l'écran et met un blackout sur les souvenirs. Donc, selon les associations de victimes, on serait plus autour de 13 à 15% de la population. Alors, les pourcentages sont un petit peu compliqués à prendre, à avoir en tête. En France, ça veut dire 6,7 millions de personnes. Et si on est plus entre 15 et 13%, ça veut dire entre 10 et 8 millions de personnes. Ce qui est colossal. C'est énorme. Et c'est 4 enfants sur 10. Mais moi, je le vois à travers ma conférence, hein, et pour en avoir discuté avec des professionnels de la santé, on peut quasiment se dire que c'est 100% des familles. Tous les composants de la famille ne seront pas touchés, mais toutes les familles sont construites hein, sur un principe qui est, parce qu'on s'inscrit dans une société hein, qui s'appelle la société patriarcale. C'est-à-dire que notre conception de la famille, elle a une histoire.
On n'est pas dans les conditions du direct. Vous le savez, je pose ma voix a posteriori. Vous l'entendez certainement. Et donc, à ce moment-là de la discussion, j'ai interrompu mon interlocutrice en entendant le pourcentage astronomique des enfants incestés. 4 enfants sur 10, c'est énorme. Et surtout, une chose sur laquelle j'ai percuté, c'est qu'on ne prend pas en compte les enfants victimes d'abus sexuels par des personnes extérieures à la famille. Ça a été mon cas à moi. J'ai été abusé enfant par le fils de ma nourrice. J'avais 5-6 ans, il en avait 17. Pour moi aussi, il a fallu conscientiser et travailler sur cet événement qui a participé de manière pas très profitable à ma construction, hein, je vous l'avoue. Ça veut dire donc qu'il y a forcément autour de vous des personnes qui ont été abusées. Et donc, il y a forcément autour de vous des prédateurs. Dans cette pièce, nous étions 3, Floriane, Clément qui était à la régisson et moi, et on était déjà 2 sur 3 à avoir été abusés, et je n'ai pas posé la question à Clément.
Évidemment, ouais, ça rajoute. Non, je parle vraiment que d'inceste. Donc ça veut dire, alors, si on peut donner une définition de l'inceste, c'est une chose assez édifiante, ça d'ailleurs, j'en parle dans ma conf, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit, il faut que j'arrive à définir certains termes. Je suis allée chercher sur le net, et alors là, c'est assez magistral, on a beaucoup de mal à le définir. Moi, la définition que j'en donne, c'est... alors, l'inceste, ça veut dire qu'il y a un lien, c'est un acte intrafamilial, c'est un membre de la famille, toujours un aîné. C'est toujours un aîné sur un cadet. Il n'y a pas d'histoire de petit qui incesterait des aînés. Donc, on est déjà sur un principe de domination qui est assez clair. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la même génération, mais c'est toujours, il y a toujours le lien de domination qui est présent des aînés sur leur cadet. Donc, c'est un individu qui pose un acte d'agression sexuelle sur un cadet ou une cadette. Alors, dans 78% des cas, ce sont des filles, les victimes, 22% des garçons, et dans 96% des cas, les agresseurs sont des hommes, 4% des femmes. Dans une société qui est construite autour du genre masculin, une société qui est viriliste, on peut se dire qu'il y a à nouveau un schéma de domination qui s'exerce. Voilà, c'est une domination sexiste et c'est une domination au niveau des âges, en fait, des aînés sur les cadets, toujours. Voilà. Donc, ça nous dit déjà un système. Ça dénonce déjà un système. À partir du moment où on se dit c'est toujours comme ça que ça se passe, alors on peut se dire que c'est systémique. Juste pour revenir rapidement sur la famille, le terme famille vient du mot familia, qui est dans la Rome antique, qui désigne l'ensemble d'une maisonnée, un groupe qui est constitué de femmes, d'enfants, d'esclaves et de serviteurs, et qui sont tout ce petit monde-là, il est dominé par, régi par une figure qui est le patriarche. Le patriarche, il a le droit de vie et de mort sur tous les membres qui composent la maisonnée. Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore de notion de lien de sang. C'est pas du tout, c'est vraiment le groupe qui constitue la maison. C'est un groupe social. Et c'est plus tard. C'est plus tard, alors je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est au XVIe siècle, qu'arrive la notion de filiation. À ce moment-là, je sais pas, on doit se dire, ah, c'est hyper chouette ce groupe social là, avec un gars qui a le droit de flinguer qui il veut. Donc, et si on disait que ce lien de sang qui est tellement fort et porteur de positivité, on en faisait ben, la suite en fait. Donc ça dit quelque chose. Quand on utilise l'étymologie d'un terme, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose d'un principe de domination. Donc, ben, ce qui va après être sur le fronton de nos mairies, hein, à une époque sombre de l'histoire, travail, famille, patrie, ben, faut quand même se dire que ça vient de là. Ça vient du patriarche qui a le droit de vie et de mort sur tous les membres de la maisonnée. On est parti pour que s'exercent des liens de domination exceptionnels. Et ce qui est intéressant avec la famille, c'est qu'on est à l'origine des êtres. L'inceste, c'est un meurtre psychique. C'est-à-dire qu'incester un enfant, c'est tuer un enfant. Quel que soit l'acte incestueux, c'est un meurtre. L'inceste est un meurtre psychique. C'est une des choses, d'ailleurs, qui, dans le podcast, ou peut-être une nuit, mon bouleversé, en fait, est venu, mais était tellement juste par rapport à... J'avais jamais pu le formuler comme ça, mais ça m'est apparu comme une totale évidence. Je vis avec une enfant morte de 11 ans en moi depuis que cet acte-là a été posé sur mon corps. Et bah, c'est une chose forte, ça veut dire que 10% de la population, 10 à 15% de la population française est composée de morts vivants. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Dans l'histoire de l'humanité, on parle de génocide. Entre 6,7 et 10 millions de personnes, on peut parler d'un génocide. Donc, c'est un sacré truc et c'est un truc qui se passe au sein de la famille. Groupe dans lequel, groupe qui est censé nous protéger. C'est-à-dire que ce qu'on nous bassine à longueur de temps dans notre société, la famille, c'est le lieu refuge. Le danger viendra toujours de l'extérieur. Et ben, c'est bien pour ça que c'est au cœur de ce groupe social que peuvent se déchaîner les trajets de domination. La famille, elle protège l'agresseur. Dans 80% des cas, la famille protège l'agresseur. Ça s'est passé dans mon cas, mais je crois qu'autour de moi, depuis que j'en parle, et c'est plus que la norme, en fait. Elles sont très rares, les familles qui, d'un coup, font bloc, condamnent et se mettent directement du côté de la victime. Et le parcours d'une victime, aujourd'hui, en France, c'est un parcours de combattant.
Ah, la famille, lieu et valeur refuge. Pas tout le temps. Dans les cas où la victime a le courage de se confier à des membres de sa famille, donc 80% de chances qu'elle ne soit pas entendue, voire même condamnée, c'est ouf. Et il semble que ça se soit passé comme ça pour Floriane.
Oui, alors, condamner la victime, ce qu'on a condamné, c'est ma parole. C'est-à-dire que, alors, personne n'a remis en question ce qui m'était arrivé. En revanche, il y avait un problème avec le fait que je parle. Je devais me taire. C'est une chose assez simple à comprendre. La famille, c'est le premier lieu dans lequel on nous donne une place. Chaque être a besoin d'avoir une place, a besoin de se situer par rapport à ses congénères. Si on vient à l'origine de à quel moment est-ce qu'on m'a donné une place, bah c'est au sein de la famille. Que ce soit une place de merde ou une place géniale, c'est au sein de la famille. Et même si c'est une place de merde, on en a quand même une. Et il n'y a rien de plus flippant que de se dire qu'on n'aura pas de place, en fait. Être sorti de la société, être sorti du groupe, quand ce n'est pas une chose qui est décidée, mais que c'est une chose qui est subie, c'est un truc d'une violence hallucinante. On est des animaux grégaires. On a besoin du regard de l'autre pour pouvoir exister. On a besoin de pouvoir se situer. Un bébé, il a besoin pour pouvoir, au fur et à mesure de son évolution, pour pouvoir se situer en tant qu'être à part entière, il a besoin du regard de son père et de sa mère. S'il n'y a pas ça, alors la psyché ne peut pas se constituer comme étant dans l'unité, quoi. C'est-à-dire que la psyché, elle explose. Donc, c'est pas rien, cette chose-là. Donc, je comprends, si tu veux, aujourd'hui, j'ai passé plein d'étapes et cette conférence, elle est aussi pour arriver à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ces foutus groupes, en fait. Pourquoi est-ce qu'on résiste à ce point? Pourquoi est-ce que tout un chacun, là, dans la pièce, je suis sûre que, enfin, je veux dire, personne peut dire « Ouais, moi, j'ai pas de problème avec le fait que on mette son doigt dans le sexe d'une môme de 11 ans, en fait. » Évidemment. Sauf que c'est plus complexe que ça. Et que y a tout un processus de déni qui va se mettre en marche et qu'en fait, on est pétri de domination. Notre rapport au monde, il s'est construit comme ça dans la société dans laquelle on existe et que c'est extrêmement compliqué de se détacher de ça. Il vaut mieux avoir un papa qui parfois est le père fouettard que de pas avoir de papa du tout, en fait. Parce que, je te dis ça dans la tête des gens, hein, et dans la tête de tout un chacun, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un repère. Et que si on part du néant, ça va être une autre histoire pour pouvoir se... Donc, dans mon histoire, mais comme dans plein d'histoires, hein, les membres de ma famille, ils ont réagi dictés par la loi du patriarche. Le patriarche, il a dit ces choses-là, on n'en parle pas, on oublie. La loi était posée et chacun des membres de la famille s'est appliqué à la faire respecter. Donc moi, j'ai été sortie, je suis sortie aussi. Et puis après, on m'a invitée à ne pas y re-rentrer. Mais voilà, en tout cas, le groupe, l'inceste, c'est une histoire de groupe. Hein. C'est pas une histoire d'individu. Il n'y a pas de monstre. Les incesteurs, le profil d'un incesteur, ce que montre Dorothée Ducy dans son bouquin, et ce qui est vraiment troublant, le profil d'un incesteur, c'est pas du tout mais comme le profil du violeur, c'est pas du tout l'image qu'on en a, la fiction qui nous a fait croire que un incesteur, c'est le tonton frustré qui a jamais touché ni un gars ni une meuf, qui se branlouille la nouille devant des films porno toute la journée et qui voilà, qui sort pas de chez lui et voilà. C'est pas du tout ça. Le profil majoritaire d'un incesteur, c'est un homme, donc dans 96% des cas, qui est socialement intégré, voire même valorisé, qui a majoritairement une femme, parfois des maîtresses, qui est sexuellement actif, parce que l'inceste, c'est pas une histoire de sexualité. L'inceste, c'est une histoire de pulsion de domination. Et ça n'a rien à voir avec de la sexualité ou... Voilà, une forme de... C'est pas une déviance sexuelle. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. C'est une volonté, une pulsion de meurtre.
C'est pas que je veuille absolument démontrer que le capitalisme soit la cause de tous nos maux, même si ce ne serait pas vraiment difficile à faire, puisque nous vivons au sein d'un système capitaliste et que nous sommes tous un peu malades. Le capitalisme a eu son utilité, hein. Voilà, mais maintenant c'est fini, allez on sort, monsieur, on passe à autre chose, on passe au collectif. Ça n'empêche pas la liberté, ça n'empêche pas la liberté d'entreprendre comme certains en ont peur, ça n'empêche rien du tout, juste ça nous permettrait d'être plus en lien avec les autres, d'être plus humain. Bref, voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait dire que le capitalisme dans sa forme néolibérale, favorise toutes les dominations et donc entretient de fait un lien avec l'inceste. Floriane Durin.
Pour moi, c'est indissociable. En tout cas, le lien entre patriarcat et capitalisme, il est indissociable. Le patriarcat met en place le capitalisme. Ça se passe comme ça. Pour moi, le capitalisme, c'est une forme, c'est la déclinaison économique du patriarcat. Je crois que certaines femmes, si c'est possible que certaines femmes s'en sortent, mais je ne crois pas que le capitalisme, il a intérêt, enfin, c'est un rapport de domination. Pour qu'il y ait des dominants, il faut qu'il y ait des dominés, hein. Et je ne crois pas du tout qu'il peut avoir une forme de féminisme de marketing, mais je crois que le principe d'égalité, c'est pas du tout un truc qui intéresse le capitalisme, pas du tout. Et pour moi, il n'y a pas de capitalisme sans patriarcat. C'est, encore une fois, c'est une déclinaison, une forme, c'est la forme poussée du patriarcat, mais l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, il est mis en place par des hommes. Enfin, je veux dire, on peut s'en parler pendant 1000 ans, mais la réalité, c'est que c'est ça, en fait. C'est ça. C'est un autre système, mais toujours un système patriarcal.
Tout doucement, on va commencer à se projeter avec notre invité en imaginant peut-être un futur enviable, parce que c'est le but de ce podcast, imaginer notre avenir à la lumière des événements de notre époque. Alors comment Floriane, de son endroit, envisage-t-elle une évolution positive ? Car il faut rester dans l'espérance. Comment envisage-t-elle donc une évolution des luttes contre les dominations ?
L'évolution de tout ça, moi je la vois par plein de... Je pense que les luttes, elles doivent être de plus en plus présentes, de plus en plus fortes, et qu'elles doivent se situer à plein d'endroits. On est suffisamment nombreux pour aller explorer différents terrains. On n'est pas obligé d'être tous des activistes écologistes, des gender fluides, des... En fait, on peut militer les uns et les autres à différents endroits, mais en fait, on se rejoint tous. Pour moi, dans tout ce que j'ai pu traverser de lutte, en fait, yeah, ça se rejoint toujours. Ça se rejoint toujours. Et je parle dans ma conf de Hunger Games, qui est un film d'anticipation, alors qui vient de bouquins à la base, qui est une série de romans d'anticipation, et dans lequel le personnage principal, à un moment, va lancer une flèche pour faire exploser un dôme. Et dans ma conf, je dis que pour moi, ce dôme, c'est le dôme du patriarcat, mais on peut se dire que c'est le dôme du capitalisme aussi, parce que je pense que si le patriarcat tombe, le capitalisme tombe avec. Donc je pense que c'est par tous les petits... C'est la convergence des luttes qui fera le... Après, je crois pas au grand soir. Je crois qu'il y a un truc qui va sincèrement, sacrément nous mettre d'accord, c'est la planète. Elle est en train de le faire, et alors certainement que ça va pousser les rapports de domination encore plus fort, et que en fait les dominants capitalistes vont devoir faire tomber les masques, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont prendre les armes, ils n'auront pas d'autre choix, hein. Et ils vont balancer au peuple des milices, et ça va être, je pense, moi c'est, je vois pas bien comment. je les vois pas bien avoir une prise de conscience disant ah, en fait on n'a pas fait du bien à l'humanité, à la planète, aux autres espèces vivantes, c'est vraiment pas, non, en fait je crois qu'il faut que on arrive à changer notre prise, mais non, je crois pas du tout. Je pense qu'ils vont bouffer le gâteau jusqu'à ce que mort s'en suive, et que après, je sais pas, moi je suis plutôt optimiste de nature. Donc je me dis qu'on est quand même sacrément plus nombreux, et que le jour où on s'en rend compte, il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose. Mais ça veut dire... Alors là, je vous invite tous à monter une conférence gesticulée, hein. on a tous subi dans notre vie des endroits de domination. Et le jour où tous les citoyens ont en main une pensée politique qui les amène à comprendre, qui s'inscrivent dans un système qui les broie, il me semble que ça pourrait bien se passer.
Oui, ça pourrait bien se passer. C'est une option, celle qui a ma préférence, évidemment. Mais à cet argument, j'oppose souvent le suivant. La technologisation de la société ne va pas nous permettre une émancipation croissante. La technologie pourrait bien maintenir les systèmes de domination. Les gouvernants n'ont jamais eu autant, comme le dirait Étienne Chouard, l'occasion de s'autonomiser, car ils ont tout, les drones, les caméras, le numérique. Ça va donc être un peu compliqué quand même.
Moi, j'ai l'impression que la planète va aller plus vite. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont être à la bourre. J'ai l'impression que la technologie, elle va pas suffire. Et qu'en fait, il y a un emballement, là, du changement climatique qui va pas laisser le temps de ça. En fait, je crois pas trop. Alors, ça veut dire que ça va être la panique et qu'il va falloir gérer cette panique-là. Dans un certain sens, j'ai l'impression que la planète est bien plus intelligente que tout ce bordel-là. Et qu'en fait, ça va aller plus vite.
Pour une artiste comme Floriane Durin, ça ne devrait pas être compliqué de me faire une petite prospective, de me raconter son histoire du futur à elle. 2096, l'époque dans laquelle vit notre héros Cal Reco. Alors Floriane, comment imagines-tu la vie dans 73 ans ?
Oh, waouh, 2096. Bah tu vois, j'ai entendu aux infos hier que en 2100, il y aurait 91% des stations de ski qui n'existeraient plus. Alors on peut dire qu'il n'y aura plus de neige. Déjà, je pense que là on peut être d'accord, je sais pas s'il restera encore beaucoup d'eau. Ah, comment est-ce que l'espèce humaine aura évolué? J'ai dit que j'étais optimiste, alors je vais plutôt aller de ce côté-là. Et ben en fait, on aura saisi que sans collectif, l'espèce humaine, elle est à rien, et que on se sera réorganisé, on aura dégagé tous ces couillons là qui régissent le monde, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on en aura fait. Est-ce qu'on en aura fait de la pâté pour chien et puis on les aura mis dans les boîtes de conserve, j'en sais rien. Ça pourrait être une idée. Mais doucement, tout en douceur, on fera ça. Que l'humain aura évolué et aura compris que la domination est un système mortifère. Et l'être humain aura laissé la place aux vivants sur la planète et sera dans un esprit de coopération interespèce. Ça veut dire une réorganisation de l'habitat, ça veut dire une réorganisation complète, sociétale. Bon, ça veut dire que Macron fera plus lieu d'être. Mais bon, en même temps, en 2096, j'aurai du mal à encore tenir debout pour aller raconter ce que je raconte. Donc voilà, les générations suivantes auront balayé les questions de genre. En fait, il y aura plus de... On sera bien plus complexe que ça. Voilà, nos attributs sexuels ne seront plus déterminants pour notre vie et notre place au sein du groupe social. Et puis voilà, ça me paraît une bonne dystopie.
Une utopie, alors.
Ouais, plutôt.
Je vous l'avais dit, mesdames, messieurs, que ces entretiens plébéiens allaient dépasser toutes nos attentes, ne trouvez-vous pas ? Je suis très heureux de pouvoir vous proposer ces interviews. Nous en avons quelques-unes d'avance et nous allons continuer à aller chercher des plébéiens pour discuter, pour échanger. Alors, comme je vous le disais, pour les premiers épisodes, j'ai décidé de rencontrer des gens que je connaissais parce que c'était plus simple pour moi de faire des essais, d'essayer de voir comment ça répond. Et ça répond vraiment très bien. Donc, nous avons déjà trouver quelques autres personnes. Et puis, je vous le disais, si vous êtes intéressé pour venir parler à notre micro, eh bien, envoyez-nous un mail, vous allez le trouver, hein, je ne m'en fais pas pour vous. Et si vous n'êtes pas trop loin de Lyon, vous pourrez venir nous rejoindre au studio. Et puis, comme je le dis aussi, nous nous déplaçons, notamment pour les interviews des personnalités. Et il se peut qu'on passe près de chez vous. Et dans ce cas, on fera un saut et puis on discutera. Voilà, nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. C'est pas évident de garder cette ligne et peut-être que nous finirons par craquer, rien n'est exclu, mais pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon, que nous avons bien l'intention de continuer à développer. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion avec, bien sûr, du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via PayPal ponctuellement. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc bientôt dans les interviews de Calreco ou chez les plébéiens. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.